RFI 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une ce matin, cette caravane de solidarité avec Gaza, bloquée en ce moment en Libye. Plus d'une centaine de véhicules partis la semaine dernière de Tunis pour ce convoi qui entend casser le blocus humanitaire de la bande de Gaza, mais avant le territoire palestinien. Il y a la Libye et l'Égypte et des autorités locales, pas forcément de bonne volonté, nous expliquera Ouda Ibrahim. Dans ce journal également, Médecins sans frontières qui s'alarme d'une augmentation des violences sexuelles dans l'est de la RDC, tandis qu'à Goma, hier, la chef de la mission de l'ONU a rencontré les dirigeants de la FCM23, le groupe politico-militaire qui contrôle la ville. La RDC aussi, avec ce nouveau naufrage d'une embarcation, cette fois sur le lac Tumba, dans la province de l'Équateur, dans l'ouest du pays. On compte ce matin au moins une quarantaine de victimes. Nous serons aussi en Afrique du Sud, où l'on accueille avec réserve l'annonce de la Chine. Pékin qui compte lever les droits de douane pour les produits de quasiment tous les pays du continent. Et puis on fera le bilan du sommet pour les océans qui s'est achevé hier à Nice, dans le sud de la France. Alors que les hostilités, échanges de tirs aériens, de missiles principalement, ont continué ce matin entre Israël et l'Iran, après des premières salves tirées par l'armée israélienne la nuit dernière, principalement sur des installations militaires et nucléaires de l'Iran. Sur le continent africain, c'est un autre volet de la politique israélienne qui mobilise, en l'occurrence la guerre à Gaza et le blocus humanitaire imposé au territoire palestinien, que plusieurs caravanes espèrent pouvoir briser. En Libye, par exemple, où sont actuellement stationnés une dizaine d'autocars et une centaine de voitures, partie de Tunis la semaine dernière. Mercredi, cette caravane est arrivée à Tripoli, mais elle est désormais bloquée à Sirte en attendant le feu vert des autorités de l'Est libyen, puis de l'Égypte, nous raconte Ouda Ibrahim.
Nous ne reviendrons pas en arrière, assure Wa El Nawar sur sa page Facebook. Ce Tunisien est l'un des coordinateurs de la caravane Soumoud, dont l'objectif est de briser le siège de Gaza imposé par Israël. Mourad Benjeddo, autre coordinateur travaillant depuis Tunis, affiche la même détermination malgré la réticence égyptienne.
Le communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères ne concerne pas Soumoud, la caravane de la résistance pour briser le siège de Gaza. Nous sommes tous de nationalité arabe et nous ne venons pas d'ailleurs. Nous ne sommes donc pas concernés par les mesures annoncées. La coordination de travail pour la Palestine à Tunis a contacté l'ambassadeur égyptien pour finir toutes les formalités avant le départ de la caravane et nous avons attendu une semaine pour obtenir les visas et les autorisations sécuritaires pour l'Égypte. Nous sommes conscients qu'on est nombreux. Nous avons donc décidé d'avancer en attendant d'obtenir plus tard les autorisations nécessaires.
Le Caire, qui souhaite la levée de siège de Gaza pour permettre l'accès humanitaire, souligne cependant la nécessité de respecter les procédures pour les délégations étrangères voulant exprimer leur soutien aux droits de Palestiniens et demande une autorisation préalable qu'elle n'accorde pas pour le moment.
Ouda Ibrahim, la FCM23 souhaite une solution pacifique au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Point de vue et déclaration hier de Bintou Keïta, la chef de la mission de l'ONU en RDC, en déplacement à Goma pour la première fois depuis que la ville ainsi que de larges zones des provinces du Nord et du Sud Kivu sont tombées aux mains de ce groupe politico-militaire soutenu par le Rwanda au début de l'année. Bintou Keïta qui a rencontré donc hier à Goma Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa et qui a déclaré que la MONUSCO soutenait toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade des tensions. L'Est congolais, et en particulier les zones de conflit, où l'ONG Médecins sans frontières décrit une situation particulièrement inquiétante en matière de violences sexuelles. Depuis le début de l'année, MSF constate une augmentation de ces violences, une dégradation de la situation, alors que dans le même temps, les financements de l'action humanitaire sont de plus en plus compliqués. À Kinshasa, Paulina Zidi.
Pour MSF, le niveau de violences sexuelles dans l'Est, principalement au Nord Kivu, est sans précédent. Si les femmes sont les plus affectées, le nombre de victimes parmi les enfants est en augmentation. 13% des cas de violences sexuelles concernent les mineurs. L'organisation demande une mobilisation supplémentaire alors que les financements sont en baisse après des coupes budgétaires du côté de l'aide américaine. Emmanuel Lampart est le représentant pays de MSF en RDC.
En plus de ces violences sur la santé physique et mentale, c'est les conséquences conséquences sociales qui sont dévastatrices. Rejet familial et social, divorce, stigmatisation, pensées suicidaires et immenses difficultés pour ces survivants et survivantes de continuer à vivre dans les lieux où elles ont été agressées. D'autant plus, à ce moment de l'année et cette année particulière avec les coupes budgétaires, il est clair que l'accès et l'offre de soins est devenu de plus en plus difficile.
MSF évoque aussi des chiffres sous-estimés, tant l'accès aux soins demeure complexe dans cette région du pays. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
La RDC où l'on compte ce matin plusieurs dizaines de morts après une nouvelle tragédie fluviale dans l'ouest du pays cette fois. Mercredi, plusieurs embarcations ont chaviré en fin de journée sur le lac Tumba dans la province de l'Équateur. Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour.
D'après les autorités, il y a au moins 40 morts et des dizaines de disparus.
Oui, les trois pirogues avaient été affrétées par une famille pour ramener dans le village d'Ikoko-Bongonda le corps d'une femme qui était décédée au centre de santé de Bikoro. D'autres passagers se sont alors joints, Xavier, à ce convoi funéraire, notamment des enfants qui rentraient chez eux pour les grandes vacances. Mais vers 16h, ce mercredi, d'importantes vagues, des coups de vent ont fait chavirer les trois embarcations. Il n'y avait pas de gilet de sauvetage à leur bord. Le bilan est difficile à établir. Une quarantaine de corps ont déjà été repêchés, d'après les autorités de la province. Une trentaine de rescapés ont été secourus, mais il y a encore beaucoup de disparus. Selon les témoignages, il y avait entre 100 et 200 personnes sur ces bateaux. Les bateaux n'avaient pas de liste de passagers à jour. Sur place, les opérations pour retrouver des victimes se poursuivent. Certains des passagers ont pu se réfugier sur des petits îlots, confie un membre des équipes de secours, qui ajoute néanmoins un manque d'embarcations pour pouvoir maintenant aller les chercher. À l'Assemblée nationale, le député de l'Équateur, Christophe Boulou, a évoqué une tragédie. Il réclame par ailleurs, Xavier, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire.
Merci Vincent Dublange.
RFI.
Comment les opérateurs économiques africains accueillent-ils la nouvelle, cette annonce de la Chine, Pékin, qui entend réduire à zéro les droits de douane pour la plupart des pays du continent, pour tous en fait, à l'exception d'Eswatini, le seul pays africain qui maintient des relations diplomatiques avec Taïwan, au moment où à l'inverse, les États-Unis renforcent eux leurs droits de douane. Pour le moment, l'heure est encore à la prudence pour les opérateurs économiques d'Afrique du Sud, correspondance de Valentin.
Après cette annonce de Pékin, certains acteurs économiques sud-africains comme Criben Reddy, spécialiste de l'économie automobile, restent très prudents.
Sur les matières premières pour les véhicules, on peut imaginer un développement des exportations, mais en règle générale, on ne sait pas du tout ce que cela va donner. Est-ce que la demande des consommateurs chinois pour les produits sud-africains va augmenter, par exemple ? Selon moi, on devrait plutôt trouver une synergie entre pays africains, parce que l'Afrique, dans son ensemble, pourrait rivaliser avec n'importe quel autre continent.
C'est aussi l'avis de Icarabele Legae, qui accompagne les exportateurs de fruits et légumes. Pour lui, cette décision est surtout dans l'intérêt de la Chine.
Ça fait partie de la guerre commerciale avec les États-Unis. Les États-Unis laissent un espace, la Chine le comble. Mais pour nous, ça ne va pas changer grand-chose, parce qu'on est plutôt dans une position d'importateur de produits chinois que l'inverse. En Afrique du Sud, on a la chance d'exporter beaucoup de fruits vers la Chine, notamment des pommes, parce qu'elles sont très rares là-bas. Mais je crois que cette décision, c'est surtout pour négocier encore plus et nous dire les droits de douane sont à zéro, on peut donc envoyer encore plus de nos produits chez vous.
La Chine n'a pas encore précisé l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Assassinat et complicité d'assassinat, ce sont les motifs pour lesquels Ousmane Dilo a porté plainte devant la justice française. Plainte contre X, suite à la mort de son frère, l'opposant tchadien Yahya Dilo, tué à N'Djamena en février de l'an dernier lors d'un assaut du siège de son parti, le Parti Socialiste Sans Frontières, assaut mené par l'armée tchadienne. Son avocat dénonce désormais l'inertie des autorités de N'Djamena, le fait par exemple qu'il n'y ait pas eu d'autopsie et pas non plus, dit-il, de véritable enquête. Dans l'actualité ce matin également, ces affrontements hier dans le nord du Mali, quand un convoi de l'armée malienne et de ses alliés russes a été pris pour cible par les rebelles du FLA, le Front de Libération de l'Azawad, dans la région de Kidal, dans le nord du pays. Le FLA qui revendique, je cite, une grande victoire, alors que l'armée malienne assurait l'avoir pris le dessus sur les assaillants, après avoir, dans un premier temps, démenti toute attaque. Une semaine de débats et d'échanges d'idées vient de prendre fin à Nice, dans le sud de la France, où était organisé le sommet des Nations Unies sur l'océan. 153 pays, 12 000 délégués, réunis pour tenter de mieux protéger les océans. Des discussions sans les États-Unis, qui disposent pourtant du plus grand espace maritime au monde et dans un contexte géopolitique global tendu. Mais pourtant, il y a eu des avancées et les engagements de Nice pour l'océan ont été adoptés hier en fin de journée et salués par les cornes de brume des bateaux du port de Nice, donc où se tenait cette conférence. Envoyé spécial, Jeanne Richard.
La séance est levée.
La principale annonce concerne le traité sur la haute mer. Il ne manque que quelques ratifications pour qu'il entre en vigueur. Et ce sera le cas d'ici septembre, promet Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur français de l'océan.
Le fait que nous allons pouvoir donc ratifier ce traité de la haute mer, c'est-à-dire en fait avoir une gouvernance de 50% de la surface du globe, qui pour l'instant était anarchique, c'était un vrai Far West, et que ce traité, c'est des règles pour éviter la prédation industrielle, éviter la pêche illégale, illicite, la surpêche, et pour évidemment créer aussi un système d'air marine efficace et protecteur.
Une poignée de pays se sont aussi engagés contre l'extraction minière dans les fonds marins, de quoi bloquer un code minier jugé dangereux pour l'environnement, d'autres contre la pollution plastique, ou encore pour créer de nouvelles aires marines protégées. Mais Julien Rochette, de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, prévient qu'il faudra aller au-delà des belles promesses.
Il faut rendre les États redevables de tout ce qu'ils viennent d'annoncer à l'UNOC. Et ça, la société civile, les ONG, les scientifiques vont pouvoir revenir avec des billes en disant « voilà ce que vous nous avez dit à Nice, maintenant faisons-le ».
Rendez-vous est donné dans 3 ans pour le prochain sommet des Nations Unies sur l'océan qui sera co-organisé par la Corée du Sud et le Chili.
Jeanne Richard. Enfin, avant de retrouver Julien Coquel-Rohem pour la suite d'RFI Matin dans un peu plus de 2 minutes, on parle de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avec une liste noire qui reste inchangée et une liste grise qui, elle, voit du changement. A annoncé hier le GAFI, cet organisme européen en charge de ces deux questions. Le GAFI qui estime que le Mali et la Tanzanie, mais aussi d'autres pays comme la Croatie par exemple, ont achevé leur plan d'action en la matière et ne nécessitent plus d'être particulièrement surveillés. Ils sont retirés de la liste grise. Et cette semaine, dans la même veine, c'est la Commission de l'Union européenne qui a placé 6 pays africains, dont l'Angola et le Kenya, sur sa liste des pays à haut risque en matière de blanchiment. Il y a aussi la Côte d'Ivoire sur cette liste, Abidjan, qui pourtant, ces dernières années, a renforcé son cadre juridique. À Abidjan, les explications de Binta Diagne.
À travers cette mise à jour, la Commission européenne s'aligne sur l'évaluation du GAFI, le groupe d'action financière qui, en octobre dernier, plaçait la Côte d'Ivoire sur sa liste grise des pays jugés à risque concernant les blanchiments de capitaux et de financement du terrorisme. Parmi les lacunes relevées par le GAFI, le manque de transparence sur les enquêtes et les transactions bancaires. Concrètement, les opérateurs financiers européens devront désormais adopter une vigilance accrue dans les transactions impliquant la Côte d'Ivoire. Cela n'a pas de conséquences sur l'aide au développement ni sur l'aide humanitaire, précise une source proche du dossier. Cette liste de la Commission européenne doit encore être validée par le Parlement et le Conseil européen qui ont chacun 1 mois pour rendre un avis. La Côte d'Ivoire a de son côté mis en place un comité pour répondre aux exigences du GAFI. Abidjan doit démontrer, je cite, une augmentation soutenue du nombre d'enquêtes et de poursuites en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il serait utile de limiter le plafond des transactions financières en liquide et de former les personnes exposées à ces situations, à savoir les notaires, les agents immobiliers et les avocats, préconise enfin le docteur Christophe Kwame, spécialiste de la gouvernance des politiques publiques. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
À Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il est maintenant 6h44, et vous êtes avec Julien Coquel-Rohem pour la suite d'RFI Matin.